Et on reprend tranquillement nos bonnes habitudes du lundi, Audrey.
Tranquillement, oui. Puis je trouve ça le fun parce que c'est un sujet qui est un peu d'actualité. Bon, par la force des Olympiques qui se terminent, par la déception qu'on a eue de la perte de notre équipe canadienne, tiens. Mais la déception, on la vit tous les jours. Puis pour moi, je pense que c'est le pire des sentiments. Quand tu te fais des attentes ou quand t'as puis que t'es déçu. Moi, il n'y a rien dans la vie que tu peux me dire de pire qu'Audrey, tu me déçois. Je me souviens quand j'étais jeune, si mon père me disait que je l'avais déçu, c'était pire que quand il était fâché parce que j'avais fait une niaiserie, ça me virait à l'envers.
Être fâché, on dirait que tout le monde est tout le temps fâché pour tout. Là.
Mais déçu.
Être déçu, c'est... Mais bien, c'est ça, je reviens avec la fameuse phrase, je suis pas fâché, je suis déçu. Quand mettons, t'as une blonde, quand ta blonde te dit, je suis pas fâché, je suis déçu, ouais. Là... On dirait que ça vient...
C'est pire.
C'est un poignard dans le cœur, puis tu le tournes.
Elle n'a même pas le goût de lever le ton. Elle est juste désemparée, démoralisée.
Je suis déçu.
Ouais. Fait que déception, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis tu disais, Max, qu'on avait un rendez-vous qui se replaçait. C'est le rendez-vous avec notre docteur en neuropsychologie, Guillaume Dulude, qui vient s'installer ce matin. Guillaume, bon matin.
Bon matin, vous deux.
La déception qui est souvent perçue, généralement, on va se le dire, comme une émotion négative, mais je me demande si ça peut être positif d'une certaine manière.
Oui, mais c'est vraiment une discussion qui est intéressante parce que la déception, vous en avez parlé un petit peu là, en introduction, c'est vraiment quelque chose qui est une terreur. C'est une terreur. Je pense que le mot est bon. C'est la chose que les humains, une des choses que les humains tentent d'éviter le plus, et les humains tentent d'éviter les déceptions avec toutes sortes de stratagèmes qui leur permettent de peser les avantages et les inconvénients, prédire leur capacité à gagner ou avoir un gain pour éviter ce fameux sentiment-là. Maintenant, la question, c'est quand ça arrive, parce que ça va arriver la plupart du temps qu'on essaie de faire des choses difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là l'art de ce qu'on peut appeler la résilience, c'est-à-dire tourner cette situation-là en quelque chose de positif, c'est possible. Mais moi, j'aimerais amener cette idée-là ce matin pour vous puis ceux qui nous écoutent. Je pense que la gestion des déceptions, c'est une habileté, ce n'est pas un état. Il faut être extrêmement proactif, il faut apprendre ça comme un sport en lui-même, sans faire de jeu de mots ce matin.
Mais c'est parce qu'on dirait que ça vient à être désagréable physiquement quand t'es profondément déçu de quelque chose.
Comme une peine d'amour.
Oui, j'allais dire ça fait mal physiquement, effectivement, comme quand t'es en peine d'amour.
Je connais ça, moi, les peines d'amour.
Pour Max.
J'en ai chaque jour.
Mais tu sais, tu dis, faut pas le subir, faut apprendre à le gérer, mais on dirait que c'est plus fort que toi parce que ça t'envahit, ce sentiment-là. Puis j'ai même envie de te dire, moi, des fois, je repense à des souvenirs ou des situations qui sont passées, qui sont réglées, mais quand j'y pense, j'étais encore capable de la ressentir un peu cette déception-là.
Je suis vraiment content que vous ameniez ce lien-là avec les peines d'amour parce que j'y pensais, puis je ne savais pas si on aurait eu le temps de plugger ce matin, mais comme vous mettez ça sur un plateau d'argent, c'est juste. Selon moi, il y a dans les peines d'amour le même genre de concept qui est une déception. Il y a des spécificités, évidemment, aux peines d'amour, mais c'est une, en gros, là, ce qui fait mal, la douleur physique et émotionnelle, c'est une chute dans la hiérarchie. C'est-à-dire tout ce qui correspond pour notre cerveau à une chute de valeur, une rétrogradation hiérarchique, le fait d'avoir moins de valeur, de compétences, de reconnaissance de ce qu'on pensait avoir, cet écart-là, ça crée une espèce de drop, une chute, ce vertige-là, et tu atterris dans une espèce là sur une balle de béton, c'est là où faut que tu te relèves, c'est là ta déception, et il n'y a pas de façon magique, tu vas avoir de la douleur. Ça va toujours avoir de la douleur, mais là, la question, c'est tu restes-tu là ou tu es capable de te reconstruire et se remettre sur pied, ce qu'on essaie de faire.
La déception, donc, est vraiment, vraiment liée, j'ai l'impression, aux attentes. T'sais, c'est vraiment... Tu penses aller là, tu penses être là, tu penses... Et là, tu te rends compte que, OK, non, j'irai pas là, OK, non, je suis pas là. Et là, bang, la déception frappe.
Oui, effectivement. Donc, quand on dit, moi, je veux quelque chose, OK, mettons que vous avez un but dans la tête, c'est que, pourquoi on choisit ce but-là? C'est qu'on se dit, ce but-là, cet objectif-là, va me donner une rétroaction, c'est-à-dire un gain. Et là, après ça, le cerveau, il dit, mais moi, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ça? Et là, on fait une petite évaluation, puis on dit, oui, je pense que j'ai ce qu'il faut. Et là est le début de ce qu'on appelle l'investissement. Puis on dit, OK, j'ai investi. Je mets mon cœur sur la table, je mets mes tripes sur la table, je donne tout ce que j'ai. mais ce n'est jamais garanti. Et là, quand tu l'as pas, ça, ce renforcement-là, non seulement tu as dépensé de l'énergie, tu as investi, mais c'est rendu maintenant un feedback objectif, c'est-à-dire en ce moment, ce n'est pas possible pour toi. Mmh. Et ce feedback-là, c'est un feedback qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, je veux garder dans ma tête l'idée que j'ai le potentiel de quelque chose. Mais là, ceux qui veulent réussir des choses, ils disent, mais moi, je veux pas juste avoir l'idée dans ma tête. Je veux réellement faire ça. Mais là, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le risque d'avoir le reality check, si c'est vrai ou pas. Et c'est ça qui est difficile.
Est-ce qu'on a des menteurs dans la salle? Je m'explique. Tu sais, des fois, on entend des gens dire, ouais, ben moi, je me fais pas d'attente comme ça, je serai pas déçu. Mais j'ai comme l'impression que... Bullshit.
Dire ça, t'as des attentes puis t'es cash. Là. T'as toujours des attentes. Tu peux pas ne pas avoir d'attentes.
C'est peut-être une façon de s'auto-réguler, mais quand même, je me dis, ça se peut pas que t'aies pas d'attentes pour éviter la déception.
Vraiment, excellent point. Je pense qu'on pourrait parler de ça plusieurs semaines d'affilée. Là. C'est que c'est effectivement, je vais appeler ça, c'est un évitement, OK, de dire « j'ai pas d'attente ». Un, c'est faux, c'est impossible, parce que sinon, tu penserais même pas à faire ce que tu veux. Donc, il y a des attentes, mais l'affaire, c'est que, consciemment ou pas, tu es terrorisé. Tu es terrorisé par parce que les Canadiens ont vécu, c'est-à-dire avoir le cœur à terre, brisé en mille morceaux, puis avoir tout donné, avoir rien entre les mains. C'est ça, la terreur. Fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « ben, je continue ». D'une part, à souhaiter ça, mais sans investissement. Comme ça, quand je crash ou si je crash, j'ai encore quelque chose entre les mains. Le problème, c'est que ça inhibe ta volonté, ta capacité de réellement atteindre ce que tu veux. Donc, la plupart des gens qui font ça ne réussissent pas à atteindre leur objectif, donc ils savent pas de quoi ils sont vraiment capables. Donc, ils restent sur l'espèce de
ils se contentent.
Oui, c'est ça. Donc, ils sont jamais complètement satisfaits. Ils savent pas exactement de quoi ils sont capables. Et donc, ils cumulent autant l'insatisfaction que le regret et les années passent. Donc, ça prend une stratégie d'avoir des attentes qui sont réalistes. Au lieu de dire, j'ai pas d'attente, ça, c'est comme le tout pour rien. Je veux quelque chose d'extraordinaire, mais je suis pas sûr si je suis capable ou je veux rien. C'est un ou l'autre qui fonctionne pas. Donc, c'est là où on est dans l'art de qu'est-ce que tu vises et comment tu crées tes attentes pour faire en sorte que tu puisses progresser dans la vie.
Je veux qu'on parle du biais de négativité. Pourquoi notre cerveau accorde toujours plus de poids à une déception qu'à une réussite, mettons, là, si on parle d'égale importance? Là?
Ben, pour cette question-là spécifiquement, c'est que les humains détestent ne pas avoir le contrôle. Donc, mettons, je te dis, la pire situation possible, c'est que tu donnes tout, mais t'as pas vraiment le contrôle si ça va réussir ou pas en bout de ligne. Donc ça, c'est le pire scénario. Donc ce que les gens font, c'est qu'ils se disent « mais je vais me garder une portion de contrôle ». Donc comment tu fais pour contrôler des retombées que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer? Ben, t'essaies d'avoir le contrôle d'un succès ou d'un échec futur. Comme ça, tu dis, tu cales d'avance le fait que « ouais, mais si je réussis pas de toute façon, je l'avais calé ». Donc, c'est comme tu t'appropries le contrôle du futur résultat. Donc, les humains, par évitement de douleur, de déception, ou quand tu fais du sabotage en relation amoureuse, quand tu laisses l'autre avant d'être laissé, c'est le même concept. C'est-à-dire, pour être sûr de ne pas souffrir trop, je vais créer une situation d'échec artificielle, mais oui, c'est un échec, mais au moins, je l'ai contrôlé. Donc, c'est ce que les humains, malheureusement, font. Puis c'est un réflexe qui est un peu normal, mais c'est pas une bonne stratégie.
On le voit-tu beaucoup dans le sport, ça aussi? C'est tellement rendu... puis, tu sais, il y a des années, des dizaines d'années, des psychologues sportifs, ça n'existait pas. Mais là, j'ai l'impression que la tête est tellement rendue importante dans le sport, le mental, la dureté du mental, diraient certains. Puis c'est tellement important d'y travailler, c'est quasiment rendu aussi important, sinon plus, que ton corps, littéralement. Ben la gestion de la déception et tout ça, avec les psychologues sportifs, j'imagine que c'est quelque chose qui est excessivement travaillé avec profondeur.
Malheureusement, non. La psychologie sportive est à un niveau extrêmement archaïque. Extrêmement. Oui. Et ce que tu viens de nommer là, ce n'est pas dans des programmes réguliers de gestion de la déception. Et c'est un peu cacophonique dans la psychologie en général. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Puis la performance sportive, la psychologie sportive ne sait pas sur quel pied danser. Évidemment, là, je vous dis ça. Il y a du monde qui vont dire non, on sait exactement ce qu'on fait. Puis c'est pas vrai. OK? On ne sait pas exactement comment contrôler, produire la performance. C'est très spécifique à l'athlète, c'est très circonstanciel, c'est complexe. Mais la déception devrait être un sujet de conversation définitivement, et le fait d'apprendre à dire là, il faut que tu vives avec la déception. Si tu veux faire quelque chose ou atteindre des choses difficiles, il faut déjà une façon de gérer ça. Et la façon de gérer ça, c'est pas du pré-sabotage.
J'ai envie de... Il y a tellement de questions qui me viennent en tête. On va parler évidemment de comment on crée des attentes logiques. Là. Je pense que c'est une question qui peut aider bien des gens. Mais au niveau relationnel, pour moi, il y a un lien direct entre déception et confiance. Comment la déception envers quelqu'un modifie nos schémas de confiance à long terme d'un point de vue neurologique? Parce que moi, si Max, demain matin, me déçoit, me trahit, peu importe,
il
me déçoit. Ça va venir blesser quelque chose en dedans, même si la situation est réglée, même si je ne suis pas quelqu'un de rancunière. Il y a comme un pincement au cœur, on dirait qu'il reste une peur de confiance. Comment on joue avec ça?
C'est que c'est la même chose dans une relation amoureuse ou envers une personne ou envers une tâche. C'est-à-dire, la confiance, c'est une projection statistique. C'est tout. C'est-à-dire que si le cerveau y analyse le contexte, les variables qu'on peut détecter consciemment, puis fait une prédiction dans le futur et calcule que, mettons, il y a 80 % des chances d'atteinte de l'objectif. Tu vas avoir confiance parce que l'anxiété va être basse. Donc, la confiance, ce n'est pas quelque chose en soi, c'est plus l'absence d'anxiété quand tu prédis un résultat futur. Donc, la confiance, c'est rien qu'une c'est juste une évaluation statistique. Ça fait, si une personne te déçoit, elle vient de créer une brèche sur ta capacité à savoir si dans le futur, tes attentes vont être comblées ou non. Donc, si une personne commence à t'éduquer, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas capable de respecter sa parole ou fonctionner comme ce que vous avez convenu, ben ça veut dire que ta prédiction du futur devient très chaotique. Et là, ta prédiction de si cette personne-là me dit quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver dans le futur? Quand tu perds confiance et ton cerveau dit non, même si cette personne-là dit quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va se passer. On sait maintenant qu'on est 50-50 ou on sait qu'on est à 30 % des chances que ça se passe. Donc, tu as 70 % par exemple d'incertitude et c'est là que l'anxiété rentre. Et malheureusement, tu perds confiance.
À la base, j'imagine qu'il y a certaines... En fait, tout le monde doit vivre la déception différemment. Il y en a qui doivent pas être affectés tant que ça, puis il y en a pour qui ça doit être la catastrophe, puis là, on remet toute la vie en question à la moindre petite déception. Qu'est-ce qui vient jouer là-dessus sur ta réponse à la déception, j'ai envie de dire?
Ta façon de rebondir. Ouais.
OK, mettons qu'on revient avec la défaite du Canadien, OK? Pourquoi on regarde ça, le sport? Même moi, là, j'aime pas se regarder le sport. OK? Je regarde pas ça, là. OK? Je m'en fous. Mais j'ai pas eu le choix que de regarder cet événement-là. Tu parlais d'événement. Pourquoi? C'est parce que là, il y a des objectifs extrêmement difficiles. Et pourquoi on regarde le sport olympique? C'est parce qu'on regarde des humains donner tout. C'est-à-dire prendre tous les risques jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien entre les mains. Et ça, c'est très puissant parce que la vulnérabilité qu'on a sous les yeux est dans le tapis.
Ouais.
On sait que les athlètes sont entraînés épreuve par épreuve à l'année longue, que ce soit en entraînement à tous les jours, deux fois par jour, dans toutes les compétitions qu'ils vont faire, à s'entraîner à ne pas garder de réserve. C'est-à-dire, tu donnes tout, peu importe que tu gagnes ou tu perdes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on regarde les athlètes. Ce sont des humains qui ont appris à tout donner sans être assurés de succès. Et ça, c'est inspirant. C'est pour ça que tout le monde regarde le sport. C'est pour ça que même si tu n'aimes pas tel sport, il y a des moments clés où tu dis « il faut que je regarde ça ». Pourquoi tu regardes ça? Parce qu'on est en train de regarder des épreuves de survie psychologique sous les yeux. Les athlètes, c'est ceux qui sont capables de mieux le faire. Alors, pour revenir à ta question, ça s'entraîne. Tu dois t'entraîner à donner tout ce que tu as et être capable de récupérer en situation d'échec et revenir à une situation pour encore une fois tout donner. Encore et encore et encore. Et tout s'accompagner d'apprentissage pour te développer.
Parce que c'est la seule certitude que tu as, dans le fond, de dire que tu as fait tout ce que tu pouvais. On dirait que c'est la seule chose qui est rassurante.
Ben c'est ça. Là, tu parles... On parle en ce moment de ce qu'on appelle des motivations qu'on appelle intrinsèques. Intrinsèque veut dire je veux faire ce comportement-là, je veux jouer cette game-là, je veux être en finale olympique, je veux dater cette fille-là, je veux faire cette présentation-là, je veux faire ce pitch-là, je veux faire ça. Après ça, le résultat, ça, c'est un renforcement externe, c'est une motivation extrinsèque. Si tu es capable de viser des choses externes, mais avoir un processus qui est interne, c'est là où tu crées des soldats, c'est là où tu crées des athlètes. Et ça s'apprend, mais c'est de ça dont on devrait parler quand on regarde le sport.
Question et sous-question, OK? Est-ce qu'on doit apprendre à baisser nos attentes pour se protéger? J'imagine que tu vas me dire non, parce que c'est un peu contre-productif pour la motivation. Puis ma sous-question, c'est comment on se crée des attentes qui sont logiques au quotidien? Tu sais, là, on parle de sportifs, mais monsieur, madame, tout le monde, là, comment on vient gérer ça?
Ben, je donne des cours qui durent plusieurs heures juste pour être capable de faire ça. Qui durent bien des mois et c'est extrêmement difficile à faire, mais c'est la bonne question que tu poses. Donc, ça va te surprendre. Oui, il faut baisser la barre.
Oh, ouais, OK.
La plupart des gens visent trop haut et c'est pas parce que viser haut, c'est pas bon. C'est parce que tu peux dire, OK, je vise ça, mais là, en ce moment, ça me prend des sous-objectifs qui vont me donner une espèce de ratio de au moins plus de 50% de chances de succès. Plus tu as de l'endurance à l'échec, plus tu es capable de te rapprocher du 50-50, mettons. Mais moins tu as d'expérience, puis moins ton système émotionnel a de l'endurance, va du dans 60, 75, 80% de chances de succès. Va augmenter tes chances de succès et là, tu vas augmenter ton endurance aux échecs, à la poursuite de buts difficiles, de développer ta consciencieusité, ta discipline, ta persévérance, toutes ces choses-là qui sont nécessaire si tu veux viser quelque chose. Donc, une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est baisser la barre. Baisser la barre, c'est extrêmement difficile parce que les humains sont allergiques à ça parce qu'ils pensent qu'ils doivent se dévaloriser. C'est-à-dire, ben non, moi, je vaux cet objectif-là. Oui, mais si ça te garde anxieux, stagnant, évitant, te fait procrastiner, ce n'est pas bon. Donc, tu dois apprendre à baisser la barre. Et là, après ça, tu vas retrouver un peu plus de momentum, d'énergie, puis oups, OK, là, tu peux dire, oh, ben, peut-être que je peux augmenter la barre juste un petit peu. Donc, c'est une question de pilotage.
On peut-tu faire,
La barre.
Guillaume, un parallèle
Oui.
avec quelqu'un qui commence à s'entraîner des résolutions de janvier? Si tu y vas 5 fois semaine en partant, tu vas te chier, tu vas te planter, tu vas être déçu, tu perdras pas de poids. Si tu y vas peut-être 1, 2 fois semaine, bien, éventuellement, tu vas avoir assez de motivation, d'énergie pour y aller 3, 4, 5. Fais-tu du sens?
100% du sens. C'est un exemple, ça, de dire, OK, je veux être en forme cette année, je veux perdre 60 livres. OK, mais faut être conscient de c'est quoi cette barre-là. Je veux être en forme puis perdre 60 livres. C'est une barre qui est très haute. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas viser ça jamais? Non. Ça veut dire où est mon point de départ en ce moment? Et là, tu commences ton expédition littéralement vers cet objectif-là. Mais là, ça te prend un objectif qui te permet de poursuivre ton mouvement. Et oui, il faut que tu baisses la barre, par exemple, en faisant quelque chose qui va te causer un peu moins de stress, que tu vas te sentir que tu es capable de réussir, que ça va pas te décourager, que ta charge de travail va pas t'écraser au point au bout dans 3 semaines, tu vas laisser tomber, comme la plupart des gens. Pourquoi les gens veulent pas baisser la barre? Parce que ça les motive pas, c'est laid, c'est pas assez glamour, ça a pas assez de reconnaissance, ça a pas assez de prestige, et les humains ont de la difficulté à résister aux objectifs qui sont non prestigieux. Ça, c'est un défi.
En lien avec la déception, puis je suis beaucoup dans le sport aujourd'hui, puis j'ai beaucoup les images en tête des Canadiens hier, puis tu sais, en général, je suis un fan de sport, puis je suis aussi un très mauvais perdant dans tout ce que je fais. Moi, je vais jouer au mini-pot, je perds, ça me met dans tous mes états, ça entre, j'ai l'impression, dans la déception. Oui, tu sais, des fois, c'est plus d'être fâché, puis c'est de la colère, mais d'être mauvais perdant, en général, ça peut-tu être quelque chose de bon, parce que là, ça te pousse à être meilleur? Ouais, c'est ça ma question.
Okay. Oui, mais ça dépend. Ça
Comment tu
dépend dans quel
l'utilises?
état. Oui, puis si ça t'envahit trop, ça va inhiber tous les autres processus qui te permettent ce qu'on appelle l'amélioration et ne pas te dévaloriser. Alors, quand tu échoues, mettons, quand tu es déçu, il y a toujours un risque que ton propre cerveau se revire contre toi. Donc, c'est-à-dire que tu t'auto-dévalorises, c'est-à-dire je le savais, je suis moins rien, ça sert à rien de pas poursuivre. Donc, pourquoi les gens veulent pas ça? Parce que quand ton cerveau se revire contre toi, puis tu as un mécanisme qui est complètement radioactif, contamine littéralement ta perception toi-même. Ça t'empêche de souhaiter et te remettre à l'attaque pour d'autres buts. Et donc, on veut inhiber ce système-là qui est corrosif. Donc, les personnes qui sont mauvais perdantes, il va y avoir de la colère, mais évidemment, c'est une colère qui est dirigée contre soi.
Ouais.
On est en colère contre soi. Mais évidemment, les humains disent jamais ça. On est toujours en colère contre les autres. On n'est jamais en colère contre les autres. On est toujours en colère contre soi, mais on n'est pas capable d'y faire face. Donc, encore une fois, c'est une plonge dans un cercle vicieux. Mais on ne peut pas dire que les gens qui ne performent pas veulent pas gagner. Ils veulent gagner. Ils veulent, mais sont capables d'encaisser des échecs, sont capables de se mettre sur pied. Donc, je peux pas dire que c'est quelque chose de 100% négatif, être compétitif, mais ça dépend comment c'est fait.
À faire attention.
Je vais terminer, oui. Guillaume, en te demandant pour les parents, comment on gère ça avec nos enfants? Est-ce que c'est crucial de les exposer à des petites déceptions en jeune âge ou c'est quelque chose qui s'apprend en vieillissant?
Il faut les exposer à la contrariété en général et à la déception rapidement. Mais si on regarde ça comme un sport ou n'importe quelle tâche, la déception, cet entraînement-là doit être en lien avec la maturité et l'âge de l'enfant. Donc, l'enfant doit vivre des succès, doit être capable de digérer les succès, apprendre des succès et aussi vivre des échecs, être déçu, se relever, apprendre de ses échecs, de ses déceptions et revenir à l'attaque. Donc, ça prend une balance des deux et c'est un cerveau d'enfant, c'est sensible. Donc, ça peut pas être seulement des échecs comme adulte ou ça peut pas être trop raide non plus. C'est comme, il faut prendre soin de l'enfant, mais il faut pas éviter les échecs ou les émotions négatives ou même les perturbations ou les remises en question personnelles. Mm. C'est quelque chose qu'il faut faire, sinon tu surprotèges l'enfant et tu bâtis du narcissisme. Donc ça, c'est le danger là en ce moment, qui est la promotion de l'estime de soi, là, puis de l'inclusion de toutes sortes d'affaires. Là. Donc c'est une très, très mauvaise idée.
Guillaume Duluth, docteur en neuropsychologie, merci beaucoup, puis on se reparle peut-être lundi prochain, qui sait?
On ne sait pas. Qui vivra bien.
Salut Guillaume,
salut.
Merci.
Merci Guillaume, merci Audrey. On t'écoute dès 14h dans Gravel dans le retour. Dans les prochaines minutes, Pascal CV est de retour de son grand voyage en Australie, qui est allé faire un petit tour. Puis elle m'a dit qu'elle avait bien des affaires à me raconter. Fait que c'est de ça dont on va jaser. On va aussi faire un petit tour de nouvelles. La ville de Québec qui offre un point de presse à 11h15 sur la fermeture de patinoires. Que le Journal de Québec nous apprenait ce matin, c'est que deux patinoires allaient être fermées à la place de 4-5. Donc là, on va pas couper autant d'argent qu'on le voulait. Fait qu'on va présenter des mesures pour quand même réussir à sauver plus d'argent, mais en fermant juste deux patinoires. Fait que ça va-tu être des heures d'ouverture réduites? On va regarder ça ensemble dans les prochaines minutes aussi. Aussitôt qu'on aura l'information. Fait qu'un petit tour des nouvelles. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Il est 11h28.
Le Point de Max.